Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écouter l'intégralité de l'interview que j'ai réalisée avec la peintre française d'origine tchèque Zuzana Hulka. Elle émigre en 1978 et après quelques années en Tunisie, elle s'installe en France en 1981 où elle vit depuis. Aujourd'hui, elle se consacre exclusivement à une création que les critiques désignent comme une abstraction lyrique. Jusqu'au 27 février, l'Institut français de Prague, l'Alliance française et la Galerie municipale de Plzeň exposent ses œuvres en parallèle avec celles d'une autre Tchèque installée en France, Terry Haas. Mais tout de suite, on écoute Zuzana Hulka. Vous êtes née donc à Zlín, qui s'appelait à l'époque Gottwaldorf, en Moravie. Okay. Est-ce que vous venez déjà tout simplement d'une famille d'artistes? Est-ce que c'est quelque chose de famille, le goût pour la création?
Malheureusement, non. Mais je me souviens, le plus lointain souvenir, ce que j'ai, j'étais attrapée par le col de ma chemise et assise dans un atelier d'un peintre académique de Gottwaldorf, ou Zlín. Qui devait faire un portrait d'un enfant de Moravie. Je ne sais pas pourquoi j'étais choisie. Bon, et ça sentait très très bon, de la térébenthine. Il y avait une lumière extraordinaire. Et ça, ce sont des éléments que je n'oublierai jamais. Il a vendu ce tableau-là. Et j'étais obligée de recommencer pour refaire avec lui des poses pour créer le deuxième. Voilà. J'étais toujours attirée par les arts, mais je viens d'un milieu très, 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 très simple où il n'y avait aucun contact avec l'art. Puis, un jour, je pense que j'avais l'âge de 15 ans, j'ai vu dans la ville d'Ostrava une rétrospective fantastique. On m'a expliqué après qu'elle était tout simplement reprise d'une exposition qui a eu lieu à Prague de František Kupka. Je ne connaissais rien de l'art abstrait. J'ai trouvé cette grande composition appelée Printemps cosmique extraordinaire. Je comprenais tout de suite, j'étais très 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 émue. Et puis petit à petit, bon, je découvrais que l'art c'est un monde très très vaste et très profond.
Donc à l'origine, alors, une odeur, la térébenthine et un peintre,
oui,
Kupka.
Et la lumière.
Et la lumière. Vous parliez donc de Kupka. Est-ce que vous avez fait après des études d'histoire de l'art? Est-ce que vous avez fait des études d'art plastique justement pour mettre un petit peu en pratique cette découverte?
Je suis rentrée à la faculté philosophique d'Olomouc à l'époque où c'était tout de suite des éliminations après le printemps de 68. Et nous nous sommes retrouvés dans deux disciplines, la langue tchèque, mais surtout les arts plastiques, où on a eu le droit de toucher à tout avec des moyens modestes, sans vraiment des professeurs conducteurs. Donc on nous a laissé pousser comme des mauvaises herbes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr que le chemin par la suite est beaucoup plus long, vous devez vous trouver vous-même, mais vous ne risquez pas de tomber dans une sorte de moule et vous rigidifier dedans.
Donc en fait, vous avez fait une espèce d'auto-formation alors?
C'était quelque part ça, seulement avec une liberté et accès vers l'espace d'un grand atelier, de toucher un peu tout, la sculpture, la, la terre, la peinture. Voilà.
Est-ce que ce sont de beaux souvenirs pour vous, cette époque?
Ah, tout à fait. Nous étions que 7 dans notre atelier. C'était des souvenirs extraordinaires, surtout des expériences humaines.
Est-ce que vous vous souvenez du premier tableau que vous avez réalisé où vous vous êtes dit « je veux devenir peintre » ?
Je me souviens de mon premier tableau réalisé dans les cours du soir où il n'y avait qu'un seul modèle, c'était un citron jaune. Et puis j'ai réalisé un portrait jaune d'un personnage. Mais je ne pensais jamais, jamais que je vais devenir peintre. J'ai quitté mon pays en 78. J'ai eu déjà 3 enfants. Je suis restée avec 2 ans en Tunisie. J'arrive en France. Je commence à travailler, m'occuper des enfants et parallèlement peindre les nuits, pendant les nuits. Et puis jusqu'au moment, j'ai travaillé tellement que je me suis rendu compte à l'âge assez tardif que je suis devenue peintre, et il n'y a pas la possibilité de retour, que je ne peux pas vivre autrement, je ne peux pas vivre sans peinture.
Alors vous disiez donc que vous êtes parti, vous avez émigré et vous vous êtes retrouvé en Tunisie. Vous me parliez au tout début de cet entretien, vous me parliez de la lumière. Est-ce que vous avez trouvé par exemple une lumière particulière en Tunisie qui vous aurait inspiré par la suite?
Je ne pense pas qu'elle m'a vraiment inspiré directement, mais peut-être indirectement, bien sûr. Imaginez-vous, c'est la première fois, la vision de la mer, sentir l'odeur de la mer, voir ces espaces dans le désert, ça vous imprègne certainement.
Quand on lit des articles sur vous, des présentations de votre peinture, on parle d'abstraction lyrique. Peut-être que ça vous est étranger, vous-même, peut-être que vous n'appliquez pas de notion sur votre peinture puisque vous la faites. Mais qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette manière de définir votre peinture?
On donne toujours des sceaux aux peintres. Ils n'avaient pas tort. Pendant une longue période, je travaillais beaucoup d'une façon lyrique et gestuelle. On peut parler aussi maintenant d'une autre forme, d'un lyrisme beaucoup plus maîtrisé, comme si autrefois mes références étaient plutôt aux tripes. Maintenant, les références, c'est plutôt à des intenses pensées vers l'intérieur de moi-même ou d'un peintre, vers son monde intérieur, et en même temps, ces sensations lyriques tournées vers l'extérieur et trouver un langage pour exprimer tout ça.
Vous aimez la couleur, ça se voit en tout cas dans vos tableaux, hein, parce que vous multipliez les aplats de couleurs. En tout cas, ils se dégagent de ces aplats qui se superposent un peu sans se mélanger, une sorte d'impression musicale. Moi, ça m'a fait penser à la musique. Est-ce que la musique rentre en compte dans votre création?
J'aime énormément la musique. Pour moi, les plus grands peintres, c'est Beethoven, c'est Jan Hacek, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui me concerne, je crois que je construis ma peinture comme un compositeur construit sa musique. Et mon principe est assez comparable avec la démarche de contrepoint. Je commence, par exemple, une grande surface blanche avec un sentiment, hein, avec une couleur choisie. Je sais où elle va être placée, je sais très bien dans quelle orientation elle va être placée. Ce premier pas franchi, je suis obligée d'ajouter une autre couleur. Et après, je travaille vraiment comme un compositeur dans ce travail qui s'écoule apparemment d'une façon libre. Il y a un ordre très strict, très exigeant, voilà le mot. Donc j'obéis à ce qui se passe sur le tableau jusqu'au moment où le tableau se referme lui-même. Je deviens son spectateur, le premier spectateur. Quand je dis qu'il se termine tout seul, je veux dire par là que rien ne gêne mon œil, et je sens que peut-être il a ajouté un petit de plus à mon propre travail ou enchaînement de mon travail.
Avant que je lance l'enregistrement, vous parliez d'une définition du peintre. Qu'est-ce qu'un peintre pour vous? Qu'est-ce qu'un peintre accompli pour vous?
Écoutez, si quelqu'un a un peu d'expérience artistique et a l'occasion de regarder une œuvre d'art, il peut découvrir très facilement les motivations du créateur. Ça peut être tout simplement une virtuosité, mais qui est creuse. Ça peut être un laborieux artisanat. Ça peut être un désir de réussir socialement. Pour moi, un vrai peintre, c'est quelqu'un qui a besoin interne, profondément interne, de communiquer. Pour moi, je n'ai pas parlé, donc je peins, moi. Je pense que un vrai peintre essaye de formuler son propre attitude intérieure vers lui-même et son attitude vers le monde extérieur, vers son organisation, vers sa vérité.
Est-ce à dire alors que le peintre se met complètement à nu devant ses potentiels spectateurs ?
Parfois oui, évidemment on ne peut pas lire absolument tout, il s'agit d'une communication et si on communique au minimum à deux, dans ce cas-là le spectateur devrait avoir des données d'un vécu assez semblables pour que on puisse établir un dialogue et pour que le spectateur puisse comprendre l'œuvre qu'il y a en face de lui.